Votre attention, s'il vous plaît.
Ce sont des croûtes.
Un jour, j'ai fait un escargot et on aurait vraiment dit un escargot. On dirait des serpents.
Le problème de nos contemporains, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus le goût.
Le goût du beau.
Est-ce que les arbres étaient beaux avant que Coron les ait peints? Non!
Darling, I adore your work. I just adore your work. I adore it.
Voilà. Je vous laisse avec l'art, c'est-à-dire l'artificiel, qui nous protège du retour au préhistorique.
France Culture, allons-y voir. Patrick Boucheron.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le panneau du métro, on le reconnaît. Les terrasses de café et les immeubles haussmanniens aussi. C'est presque ceux d'aujourd'hui. Mais le plan du métro de la station Richelieu de Rouault, sa forme, son logo, non ? Ce n'est plus le même. Et l'allure des badauds, l'enseigne de la brasserie, nous sommes bien à Paris, mais dans les années 40. D'ailleurs, voici trois soldats allemands qui semblent chercher leur chemin. L'un se penche vers le plan du métro, l'autre chausse ses lunettes, ils sont de dos. Un troisième se retourne, soudain c'est un officier, il est surpris, il fait face à l'objectif, clac. C'est le moment de ce qu'on appelle en photographie, d'une expression qui trahit sa proximité avec la guerre, une prise de vue. Et si l'on retourne, nous aussi, le cliché en noir et blanc, que lit-on à son verso, tracé en lettres majuscules d'une écriture dressée, presque coléreuse? Monsieur Fritz n'a pas l'air content d'être photographié. Regardez son air aimable. Vue prise le 14 juillet 1940, 14h15. Regardez, oui, regardez. Cette photographie est l'une des 377 composant l'album d'un photographe inconnu qui y a juste laissé une page volante, se présentant comme un promeneur parisien qui s'est armé de son appareil et, précise-t-il, ayez le courage de les examiner. C'est de courage dont on va parler aujourd'hui. De la photographie comme acte de résistance, en compagnie du journaliste Philippe Broussard, de l'historien de la résistance Julien Blanc, l'un et l'autre rejoint plus tard par notre sociétaire du jour, l'historienne de la photographie Éléonore Chaline. C'est maintenant, sur France Culture, allons y voir, à l'ombre des questions de Georges Perec.
Comment décrire ? Comment raconter ? Comment regarder ? Comment reconnaître ce lieu ? Restituer ce qu'il fut. Comment lire ces traces? Comment saisir ce qui n'est pas montré? Ce qui d'abord a été photographié, archivé, restauré, mis en scène? Comment retrouver ce qui était plat, banal, quotidien? Ce qui était ordinaire? Ce qui se passait tous les jours?
Philippe Broussard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, directeur adjoint de la rédaction du Monde, où vous avez publié cet été une série qui a tenu en haleine les nombres de lectrices et de lecteurs, 1940-1942, sur les traces du photographe inconnu. Vous avez publié des romans sur des disparus, obtenu le prix Albert Londres en 1993 pour un reportage sur des passagers clandestins africains à bord d'un cargo ukrainien. Des inconnus, des disparus, des passagers clandestins de l'histoire, des cold cases, c'est votre truc, non ?
C'est mon truc, c'est, pour reprendre un cliché, c'est peut-être raconter la grande histoire à travers la petite.
C'est ça.
Partir de l'humain.
Et vous, Julien Blanc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste de la résistance, vous enseignez à l'EHESS et l'on vous doit notamment un très beau livre paru en 2010 dans la librairie du 21e siècle aux éditions du Seuil, au commencement de la résistance, du côté du Musée de l'Homme, 1940-1941. Et votre dernier ouvrage est paru, lui, chez Bayard, une petite conférence à mettre entre toutes les mains. Qu'est-ce que résister ? C'est une question que l'on va se poser aujourd'hui, qu'est-ce que résister, mais aussi qu'est-ce qu'enquêter ? Ça vous a épaté, hein, d'ailleurs, l'enquête journalistique de Philippe Broussard.
Ah oui, tout à fait, ça m'a tout à fait épaté. Peut-être je voudrais commencer par lui dire mon admiration pour son travail d'enquête, pour la méthode qu'il a utilisée, pour sa ténacité, pour voilà toute la façon dont il a ouvert des portes, exploré des voies souvent qui ne menaient nulle part, des impasses, mais ça fait partie du travail sur un fond qu'on connaissait
pas.
Qu'on connaissait mais sans le connaître en
réalité. Alors c'est ça, il y avait un fond qui était, on va en
parler au Musée national de la Résistance à Champigny. Ouais. Mais vous, vous avez trouvé autre chose, et de manière presque fortuite, en réalité, un album.
Un album découvert sur une brocante par une amie dans le sud de la France. Et cette amie m'appelle et me dit « Voilà, je suis face à un objet assez extraordinaire. 377 photos prises à Paris entre 40 et 42. Comment savoir qui a composé cet album ?» Première question. Deuxième question, qui a pris ces photos ?
Oui.
Et là, l'enquête commence, elle va durer 4 ans.
Alors, les photos, quelles photos ? Vous connaissez le principe de l'émission. C'est pas pour rien qu'elle est aujourd'hui placée sous l'exergue de Georges Perec, au début du film de Robert Bovert sur Ellis Island en 1979. Comment décrire, comment raconter, comment regarder ? On essaye, il y en a quelques-unes. Laquelle vous vient, là, Philippe Boussard ?
Mais écoutez, si je dois en retenir une, c'est peut-être la plus fascinante de toutes. En les posant sur mon bureau, à la façon d'un policier enquêtant sur un crime, je me suis aperçu, avec mon ami Stéphanie Collot, qui est donc à l'origine de la découverte de cet album, qu'une seule photo nous montrait une ombre.
Oui.
Autrement dit, c'est l'ombre du photographe. Nous sommes place de la Concorde.
On voit un Allemand de dos avec également une femme qui semble lui, encore une fois, lui l'aider à trouver son chemin.
Voilà, est-elle française, est-elle allemande, je ne sais pas trop. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au premier plan, on distingue une ombre et on se dit, c'est celle du photographe. Les mains ne sont pas levées, donc il doit tenir son appareil à hauteur de la poitrine. Comment fait-il pour le dissimuler ? Alors certes, l'Allemand en question est de dos, il ne le voit pas, mais quand même, on se dit, il est très près, il prend un risque énorme, parce qu'il faut savoir, et je parle sous le contrôle de Julien, la photo est interdite en extérieur pour les Français, sauf autorisation et accréditation particulière et propagande, faut bien le dire. En l'occurrence, il prend cette photo qui nous est parvenue.
Une ombre, une trace, des photos de Paris occupé, laquelle vous vient ?
Ah, mais il y en a plein, mais celle-là, c'est vrai qu'elle est tout à fait étonnante parce que
Julien Blanc,
on voit l'ombre effectivement du photographe, une ombre, une silhouette, on distingue absolument pas ses traits. Et pour rebondir sur une des phrases de Georges Perec. Regarder, saisir ce qui n'est pas montré. Je crois que cette photo, elle illustre très bien au fond ce qu'est la nature même de la résistance et du phénomène résistant. C'est-à-dire un monde qui est un monde clandestin, un monde souterrain, sous le voile, caché, et qui se laisse pas du tout approcher facilement. C'est-à-dire que, voilà, cette métaphore de la nuit, de l'ombre, elle est utilisée
bien sûr.
Pendant la période par Joseph Kessel, par exemple, dans son livre L'Armée des Ombres, c'est 1943. Mais c'est vraiment cette nature du phénomène résistant et toutes les difficultés qu'on a pour justement mettre des traits, distinguer les traits de ces résistantes et de ces résistants. Et donc je trouve que cette photo, parmi beaucoup d'autres, elle est formidable.
Comme un flic, vous l'avez dit tout de suite, Philippe Boussard, évidemment, la métaphore policière, la trace, l'indice, elle est commune aux journalistes et à l'historien, mais on va voir que ça peut se séparer aussi parfois. Vous avez d'emblée une obsession, alors vous faites un travail, vous les étalez, vous essayez de... Alors il y a des dates, il y a des
dates,
heures.
Ça aide vraiment, les dates aident vraiment à, voilà, des dates, des lieux, et on s'aperçoit qu'une majorité de photos ont été prises dans l'ouest parisien, j'allais dire ça. Dans le Paris très allemand, parce que ce sont les lieux de pouvoir, les grands hôtels, les bâtiments administratifs, les ministères. Et beaucoup de photos sont prises dans ce secteur et on va jusqu'à l'approche banlieue ouest.
C'est le Paris occupé. Et c'est ce photographe inconnu qui commence à photographier le Paris occupé, très monumental d'ailleurs. C'est ce qui semble, et d'ailleurs il l'écrit au dos des photos, le heurter, le scandaliser, la présence des Fritz, des Fridolins, comme il l'écrit. Un des hors-champs possibles, Julien Blanc, c'est celle d'une photographie que vous évoquez dans le livre « Qu'est-ce que résister ?» dans une foule de Parisiens qui regardent défiler les troupes allemandes avenue Foch le 14 juin, les mines graves. Mais il y a un homme, c'est bouleversant, un homme d'âge mûr qu'on voit de très près qui pleure.
Oui, c'est une des photos un peu iconiques de juste après l'entrée des Allemands à Paris, qui symbolise effectivement la débâcle, l'effondrement d'un pays, l'effondrement de toutes les structures. Et donc effectivement cet homme qui voit défiler les troupes allemandes à Paris et qui a ce visage littéralement décomposé, ça fait partie de ces photos très très connues qu'on voit souvent, qui sont dans les dans les livres scolaires en particulier.
Libre-Saint.
En l'occurrence, les photos de cet album sont d'un registre différent. Il n'y a pas de gros plans comme ça. Ce sont des photos un peu volées, j'allais dire, clandestines, un peu paparazzi, dirait-on aujourd'hui. Oui. Il y a quand même une certaine distance, donc il n'y a pas de visage en gros plan. On est dans un autre registre. Et étonnamment, surtout dans les premiers temps, parce que ça commence fin juin 40, c'est très tôt, la ville... C'est, en cet été-là, est en partie désertée par les Parisiens qui ont fui. Ceux qui pouvaient fuir ont fui. Et elle est en partie déserte. Elle est déserte et grise, quelque part. Alors certes, c'est du noir et blanc, mais on la sent grise.
Oui, mais on est dans une atmosphère très maudianesque.
On va
y revenir tout à l'heure. Et en tout cas, retenons ceci, on a des photographies, mais ce qu'on voit aussi, c'est l'acte de photographier, et l'acte de photographier comme résistance. Écoutons cette archive, INA, 1996.
Système D français, surtout en 39-45, exemple de cette débrouillardise, de cet esprit de défi, Francis Poret, projectionniste à Enghien-les-Bains, il réussit à se procurer de la pellicule et surtout à tourner au nez et au casque de l'occupant. Déjà, la caméra cachée est bien cachée.
J'avais collé les pages d'un annuaire téléphonique et j'avais ensuite découpé le logement de la caméra. J'avais inséré la caméra dedans en laissant passer l'objectif par le dos du bottin. C'est ce qui explique d'ailleurs la mauvaise qualité, surtout le mauvais cadrage des images. J'avais eu la bonne idée de me faire un Ausweis dans lequel j'étais référencé comme opérateur de cinéma. Alors j'allais chez Kodak, je leur présentais un machin, je disais voilà, je suis opérateur de cinéma, il me faut des films. J'avais toujours peur, évidemment, quand j'allais chercher la bobine, d'avoir en même temps que la bobine un représentant de la Gestapo. Enfin, ça s'est bien passé, je suis passé au travers, il n'y a pas eu de problème. Il y a une scène notamment où il y avait un Allemand qui avait un fusil à la main, alors je l'avais filmé, il faut dire, quand même de trop près. Et à un moment donné, il m'a regardé curieusement, et j'ai eu l'impression qu'il avait entendu le ronron de la caméra. Et je me suis éclipsé le plus vite que j'ai pu, parce que là, j'ai dit, là, ça va mal tourner. Ici, là, vous avez par exemple une queue de femmes qui attendent, et vous avez surtout ces femmes qui ramassent, voyez, les détritus, parce que ce sont des détritus qu'elles vont manger après. Bon, c'était quelque chose de formidable. Là, voilà un document aussi qui est assez curieux. Ce sont des miliciens qui sont exhortés par les Allemands pour faire quelque chose. Mais quoi, évidemment, ils ne m'ont pas tenu au courant.
Étonnant, hein, ce document, Julien Blanc.
Très étonnant, mais je connaissais absolument pas ce document. Effectivement, il y a une... Dès le départ... Très rapidement, vous dites dans votre enquête, dès septembre 1940, il y a un contrôle très strict, à la fois évidemment sur la presse immédiatement, sur le papier, etc., sur le matériel d'impression, mais aussi évidemment sur les pellicules, sur les images, sur les photos. Et donc voilà, donc c'est très compliqué de faire ça, et donc d'où effectivement les tous ces procédés techniques pour réussir à faire des photos. Et effectivement, on fait pas des photos à un mètre, il est un peu plus loin, et il se cache. Et effectivement, là, le photographe, le promeneur photographe, son dispositif est pas tellement éloigné, visiblement, de ce qu'on vient d'entendre.
Oui, vous essayez, Philippe Broussard, de reconstituer ce dispositif.
Ben oui, parce que moi, je me heurte au début de l'enquête à toute une série de questions. Quel est son matériel ? Comment fait-il pour avoir des pellicules et pour développer ces photos ?
Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'à la fin, vous les mettez en regard avec d'autres du musée de Champigny et qu'on en a 700. Donc c'est quand même énorme.
C'est-à-dire, partant de l'album, je m'aperçois qu'il y a deux autres lots, dont un très important, détenu à Champigny.
Donc à la fin, c'est 700 clichés.
Environ 700 clichés, donc c'est une
conservé,
masse énorme.
Donc peut-être conservé. Et plus.
Et
tout ça, c'est
tous
un numérotés,
légendés, voilà, et avec la date de la prise de vue.
Julien, on peut ajouter plus de 700 clichés au total, mais en fait beaucoup plus de tirages, parce qu'il y a des tirages, il y a plusieurs tirages en double ou en triple parfois. Donc on est à plus de 1000,
on est pas loin de 1300.
Nettement plus de 1000 tirages.
Bon, et là, Julien Blanc, on est bien dans cette catégorie de la résistance ordinaire, hein, des petits gestes qui ne sont pas forcément violents, qui ne sont pas forcément la résistance armée, mais qui forment, je dirais, le plus commun et pas le moins courageux de cette période.
Alors oui, c'est même, à mon avis, plus que ça. C'est-à-dire qu'on a affaire là, la question c'est comment on caractérise ce type d'activité. Et on a du mal à faire rentrer ça dans les cadres qu'on utilise. Mmh. Les cadres qu'on utilise quand on parle de résistance, très souvent, ce sont des cadres d'organisation. Donc des mouvements, des réseaux, et donc des organisations collectives. Or là, en tout cas au début, ce photographe, il agit visiblement seul. Et il fait quoi? Alors il prend des clichés pour garder témoignage, mais pas seulement, parce que évidemment en même temps qu'il y a l'image, il y a aussi le texte.
Et le texte donne une dimension politique à son action, quelque part. Ça lui donne une ampleur que les images à elles seules
bien
n'ont
sûr.
Pas.
Oui.
Et moi, bien évidemment, au moment où je débute l'enquête, j'appelle les historiens spécialisés.
Dont Julien Blanc.
Voilà. Je fais le tour des sachants dans ce domaine-là. Je leur dis, voilà, est-ce que vous avez entendu parler dans tel ou tel réseau d'un trafic de photos qui auraient pu servir en matière de renseignement? Est-ce que vous avez déjà eu connaissance de ce type d'acte de résistance?
Et là, ils disent non, c'est une leçon de modestie.
Absolument, c'est une leçon de modestie. Tout le monde dit non, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'effectivement, ces photos, on les connaissait pour la plupart d'entre nous, on les avait déjà croisées, mais en fait, on ne s'était jamais attardé dessus, on les avait vus sans les voir.
Alors écoutez ce que dit aussi Christophe Cogné dans son très beau livre Éclat, qui est un livre sur les photographies clandestines dans les camps de concentration. C'était à la librairie Mola en 2019.
C'est donc un livre qui est écrit à la première personne, mais c'est une personne très humble. Et je voulais surtout pas que le livre soit l'exposé d'un savoir établi. Je voulais vraiment qu'il soit une quête aussi des savoirs possibles pour m'aider à voir les images. Aussi des mots, comment on nomme, comment on regarde, et d'aller jusqu'au seuil de ce que je crois voir, de ce que je crois pas voir. Je me suis trompé des fois. Des fois, j'ai cru quelque chose qui finalement n'est pas dans l'image après enquête. Donc je dis, bah là, je crois voir un mort. En fait, il n'y en a pas. Parfois, c'est le contraire. Parfois, dans une image anodine, on voit quelque chose dans un détail qui fait qu'on se dit, ah oui, tiens, ça peut être ça, et en interrogeant des historiens, on se rend compte que oui, c'est très vraisemblablement des gens étendus qui viennent d'arriver, etc. etc. Donc c'est vraiment une enquête très très précise sur les images. Et j'insiste beaucoup là-dessus. C'est moins un livre d'histoire, puisque l'histoire des camps, je ne suis pas compétent pour la constituer. Il y a des historiens qui le font. C'est plus un livre de l'aventure d'un regard, en fait. C'est porté sur ces images qui, je crois, peuvent nous faire réfléchir au statut des images actuellement, parce que quand on risque sa vie à ce point pour faire des images, pour moi, c'est les images les plus dangereuses de l'histoire des hommes, en fait, qui ont été faites. Quand on risque à ce point sa vie pour faire des images, je pense que c'est pas inutile de rappeler ce que c'est que le prix d'une image à l'heure actuelle, où on a des logiciels, des choses qui font qu'on peut faire un peu tout, on peut tout transformer, tout manipuler sans arrêt. Donc c'est ça aussi l'admiration que j'ai pour ces gens.
Et Christophe Cogné, on a trouvé 80 de ces images clandestines des camps de la mort, témoignées malgré tout. Julien Blanc, c'est un acte de courage extraordinaire.
Oui, parce que on rejoint là une question qui est à mon avis fondamentale. Il n'y a pas de petits actes en fait de résistance. Et résister, c'est se mettre en danger. Tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a un risque, permanent. Et d'ailleurs, ce photographe, en novembre 42, le couperet va tomber, hein, une lettre de dénonciation, immédiatement une enquête DRG, une arrestation, il est mis dans les mains des Allemands, et il va être déporté, il va en mourir. Donc, je veux dire, voilà, pour des images, on parle de ça. Voilà. Donc, il y a des conséquences qui sont très, très lourdes, hein, et qui sont immédiates.
Et il y a beaucoup d'exemples historiques. Effectivement, alors vous en donnez un autre dans votre livre, c'est les photos de la manifestation du 10 mars 1943 pour empêcher les trains du STO de partir, et Paul Deval, un journaliste, photographie et enterre les pellicules dans son jardin. Et c'est une des seules manifestations aujourd'hui qui a été...
Il a certainement conscience qu'effectivement, donc ça se passe à Romans-sur-Isère. Je ne sais pas si Philippe, vous connaissez ce cliché. Il prend une manifestation d'opposition à un blocage de convoi du STO. Et il est sur le toit, il fait une pellicule entière qui va immédiatement enterrer, qui va déterrer à la Libération. Parce qu'effectivement, voilà, il sait bien que c'est dangereux. Il y a des gendarmes, il y a des affrontements. Bon, là, on est à Romans-sur-Isère, on est plus tard, on est en mars 43, mais bien sûr que de faire des photographies d'Allemands à Paris, c'est totalement interdit, donc c'est très dangereux.
Alors, on va pas raconter toute votre enquête, Philippe Broussard, il faut laisser aussi aux auditrices et aux auditeurs le plaisir de la découvrir, c'est un feuilleton. Et à un moment, dans ce feuilleton, vous commencez à douter, parce que vous n'approchez pas, en fait, cette ombre, n'arrivez pas à l'identifier. Et puis on dit résistant, mais il y en a d'ailleurs quelques-uns des historiens ou historiennes que vous interrogez, qui vous mettent sur la piste ou sur le doute. Vous êtes bien sûr, après tout, ça pourrait être un Allemand.
Bah évidemment, ouais, il est toujours très près. Ce ne serait pas un Allemand. Après, les commentaires donnent une tonalité très française.
Est-on certain que ce soit
voire parisienne et un peu parigot, dirons-nous. Ouais. Parce qu'il y a un peu d'argot, donc ce qu'on se dit quand même, c'est à moins que ça ait été écrit par quelqu'un de totalement différent. Donc, je passe par toutes les phases dans cette enquête. Est-ce que c'est un policier ou un gendarme qui, de par ses fonctions, a le droit d'être à tel ou tel endroit et qui, en douce, prend des photos. Est-ce que c'est un photographe dûment accrédité, parce que les photos sont quand même de relative qualité, qui profite de son autorisation pour en faire, en plus, à titre personnel? J'envisage tout.
Et, oui, et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout raconter, parce que ça se découvre dans la durée, c'est-à-dire dans la durée, dans le tempo d'une enquête. Pendant des mois, on piétine, et puis il y a des brusques accélérations, souvent, quand vous tombez sur une piste, et en particulier lorsque vous allez voir les lieux.
Oui, les lieux, parce que encore une fois, y a beaucoup d'endroits dans Paris où je suis allé aujourd'hui avec mes photos d'hier pour comparer, regarder, m'en inspirer, me dire tiens, pourquoi était-il là, que faisait-il, à chercher des idées, jusqu'à regarder la seule photo prise de l'intérieur d'un bâtiment. Il y en a une sur
à Courbevoie,
environ 700. Là, nous sommes dans le quartier de Bécon, à Courbevoie.
Et à partir de là ?
À partir de là, j'identifie l'immeuble.
Et on n'est pas loin de celui qui va l'occuper ?
Pas très loin.
Pas très loin, mais on n'y est pas encore.
Pour l'anecdote, on n'est pas très loin de chez moi non plus.
D'accord.
J'habite à vol d'oiseau, à 400 mètres de cet endroit. Et il m'est arrivé une bonne dizaine de fois d'aller patrouiller dans le secteur pour m'imprégner encore plus de cette histoire et traquer le mystérieux photographe.
Vous savez que le philosophe Mathieu Pot-Bonneville, directeur du département culture et création du centre Pompidou, a pris l'habitude de nous envoyer des cartes postales. On va voir si on va relever le courrier. Ah bah tiens, oui, on en a une.
Vous allez écrire un livre.
Un livre? Mais je ne pourrais pas. J'ai déjà du mal à écrire une carte postale.
Cher Patrick, l'image que je t'adresse cette semaine saurait difficilement être qualifiée de carte postale, sauf en un sens bien spécial, j'y viendrai tout à l'heure. Tournée le 3 mars 1991 à Los Angeles, depuis un balcon situé en face du parking où se déroule la scène, elle montre en un long plan séquence le tir de taser et les 56 coups de bâton, administré par 3 policiers à un homme noir de 25 ans, Rodney King. La diffusion de ces images par CNN déclencha le procès des policiers. Procès où, c'était une première, la vidéo fut diffusée en ouverture des débats, mais dont le verdict, l'acquittement, conduisit à des révoltes urbaines parmi les plus violentes de l'histoire des États-Unis. Dans le long entretien qu'il accorde en 1993 à Bernard Stiegler, Jacques Derrida médite un fait troublant à propos du Rodney King verdict. Ce n'est pas seulement que, là où le procureur pensait naïvement que la vidéo parlerait d'elle-même, la défense des policiers parvint à l'enchâsser dans un récit qui finissait par en faire disparaître la violence, par y lire une banale interpellation. C'est aussi que, d'emblée, pour que le document soit recevable, il fallut que le jeune auteur de la vidéo, George Holliday, vînt à la barre. L'enregistrement, écrit Derrida, n'a pas été substitué au témoignage, on a demandé au jeune homme qui a filmé de venir lui-même attester en jurant que c'était bien lui qui tenait la caméra, qu'il a assisté à la scène, qu'il a vu ce qu'il a filmé, etc. Si flagrante et impersonnelle qu'elle soit, il fallait que l'image enregistrée, pour entrer dans ce jeu de vérité qu'est un procès, s'indexe à la fragilité d'une voix, au tremblement d'une identité, au vertige d'une parole donnée, à la fiabilité toujours précaire d'une signature. C'est à cette remarque de Derrida que j'ai pensé, en découvrant cet été l'extraordinaire collection de photos de l'occupation qui fait l'objet de votre conversation. Au recto, s'y montrent des images de Paris occupées comme on ne l'avait jamais vu, mais au verso, s'y laisse lire une écriture, un style, un accent presque, de sorte que l'enquête publiée dans Le Monde ne cesse de se demander tantôt « qu'est-ce qu'on voit ?» et tantôt « qui est là ?» Pour qu'elle vaille témoignage, il faut une parole aux images, et pourtant, écrire n'est pas voir. D'ailleurs, regarde, c'est au dos que leur auteur a annoté ces photographies de l'occupation. Impossible donc de séparer le texte de la photo, mais impossible de les voir ensemble. Pour lire, il faut les retourner. Donc cesser un instant d'avoir l'image sous les yeux, comme une carte postale, Patrick. Comme une carte postale.
France Culture. Allons y voir. Patrick Boucheron.
Philippe Broussard, on vous doit une confidence. Quand un journaliste comme vous travaille si bien, qu'il enquête, qu'il va aux archives, etc., nous, des historiens, on dit oh, c'est aussi bien que de l'histoire. Mais là, en fait, c'est mieux. Et pourquoi c'est mieux, Julien Blanc? Ben, j'ai l'impression qu'un historien, aujourd'hui, une historienne, habituée sans doute à poétiser un peu l'absence, à un moment, il serait arrêté. Il dit, bon, tant pis, on a nos photos, on les regarde, c'est bien comme ça, on ne pourra jamais obtenir le nom. Et Philippe Broussard, lui, c'est un teigneux, il s'est obstiné. Et ça donne un résultat extraordinaire, parce que quand on a le nom, alors c'est un monde qui s'ouvre.
Ouais, absolument. C'est vrai que je pense que beaucoup d'historiens ou d'historiennes auraient lâché prise et pas lui. Et du coup, effectivement, c'est un monde qui s'ouvre. Et quand le nom apparaît, alors des perspectives nouvelles s'ouvrent. Ouais. Et on peut revoir l'ensemble complètement différemment, avec des informations nouvelles, des archives nouvelles qui s'ouvrent et qui tombent. C'est ça qui est fascinant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il obtient un nom, alors voilà, toutes les portes s'ouvrent. Et là, on est presque enseveli sous les nouvelles révélations.
C'est comme ça que commence la cinquième livraison du feuilleton. Autant le dire d'emblée, son nom est Minot, Raoul Minot. Et pareil destin mérite la lumière, écrivez-vous Philippe Broussard.
Je l'écris alors que les quatre premiers volets de l'enquête sont déjà rédigés, sont déjà prêts. Parce qu'on est au printemps, il faut envoyer la copie, comme on dit dans notre jargon. Les volets sont prêts, je raconte le making-of de l'enquête, les phases de doute, de trouvailles, de surplace. Et puis, l'élément déclencheur, la découverte du nom, m'incite à écrire donc évidemment ce cinquième volet. Et là, effectivement, on bascule dans autre chose, puisque tout s'enclenche. C'est magique, il y a une sensation, enivrante quelque part.
Il est dans un portrait de groupe et qui n'est pas sans rapport avec votre travail, Julien Blanc, sur le réseau du musée de l'Homme. Là, on est au printemps, dans un grand magasin.
Il n'y a pas véritablement de réseau. Je n'ai pas l'élément qui me permet de dire qu'il a fait partie d'un réseau.
Il y a un groupe.
Il a été en contact avec une autre personne du printemps, un collègue qui, lui, était un agent occasionnel, dirons-nous, d'un réseau.
Qui lui aussi
s'est retrouvé en possession de photos également et qui a été arrêté comme Raoul Minot, mais je n'ai pas, à ce jour, l'élément qui me permet de dire qu'il faisait partie officiellement de tel ou tel réseau.
Julien Blanc.
Non, mais ça pose la question, qui est une question très complexe, de la reconnaissance, en fait, de la reconnaissance des faits de résistance, et une reconnaissance qui a lieu après la guerre, et où on a privilégié effectivement l'appartenance à des organisations. Et donc on a beaucoup de mal à situer et à positionner des gens qui sont pas dans des organisations. Et bien sûr qu'il a des contacts au printemps, il y a d'autres gens qui font partie de la résistance, d'une résistance plus ou moins organisée. Mais lui, pour l'instant, il n'y a pas d'éléments, effectivement, comme vous le dites, qui montreraient qu'il fait partie de, vraiment d'un réseau ou d'un mouvement. Donc voilà, on en est là pour l'instant. Mais c'est très intéressant parce que c'est une résistance, encore une fois, un fonctionnement qui est individuel, mais qui dit quelque chose de ce qu'ont été les formes de désobéissance.
Et ça, c'est terrible, c'est poignant, parce que bon, il est déporté, il meurt, oui. Il meurt dans la fuite, hein, le 28 avril 1945, après la libération des camps, et le 30 mai 1949, au terme d'un processus administratif interminable, sa veuve essaye de faire reconnaître au secrétariat d'État, aux forces armées, ben, son statut. Absolument. Au sujet, et le verdict tombe. Aucune activité résistante n'est relevée au bénéfice de l'intéressé.
Mais non, puisque la reconnaissance, l'économie morale de la reconnaissance, des faits de résistance, privilégie encore une fois les organisations. Donc, les formes de résistance civile ou individuelle sont très difficiles à faire reconnaître dans ce cadre administratif et juridique qui est très serré. Et donc, effectivement, il n'est pas reconnu comme résistant. C'est ça qui est incroyable.
Philippe Broussard, en fait,
alors que les documents de police que j'ai récupérés mentionne clairement qu'il est arrêté pour prise de photo, transmis à la police française, transmis aux Allemands qui aussitôt le transfèrent à la maison d'arrêt de Fresnes, puis à Compiègne, puis en déportation. Sur ces documents de déportation à Mauthausen et Buchenwald, il est mentionné clairement prisonnier politique français.
Eh oui.
Donc les Allemands, quelque part, le reconnaissent comme activiste politique, et les Français, non. C'est assez étrange.
Et votre enquête s'achève ainsi par à la fois une reconnaissance et la reconnaissance d'une injustice. Son nom est Minot, et pareil destin mérite la lumière.
Sous la pluie, infidèle, photo d'elle et de lui si belle. Il y avait aussi un petit chat gris bleu, on le voit un peu. Je me noie quand je parle d'elle dans les eaux du ciel. T'as pas vu mes ailes. Je pense qu'on est dimanche, et elle penche, et elle penche dans ma drôle. Petit chat est mort, ou alors il dort. J'ai plus de mémoire, et ça va te faire rire, j'oublie de souffrir.
Les photographies chantées par Émilie Loiseau. Nos photographies, ce sont ces photographies volées, en somme, par cet inconnu qui ne l'est plus, grâce à vous, Philippe Broussard, et à votre enquête qu'on peut lire dans Le Monde, Raoul Minot. Et on se disait, effectivement, Julien Blanc, que cette différence entre l'enquête journalistique et l'enquête historique, qu'on associe, est dans cette obstination de Philippe Broussard à vouloir chercher l'identité et à ne pas se contenter des ombres. Et d'une certaine manière, est-ce que cette poétique de l'histoire qui a cours aujourd'hui et qui contourne, sinon l'obstacle, du moins l'absence, est-ce qu'elle n'est pas aussi liée à ce que la littérature aurait fait, en somme, d'une pareille découverte. C'est-à-dire, oui, poétiser l'ombre, l'absence, la trace imparfaite. C'est un petit peu notre manière de faire aussi en ce moment.
Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai, mais je trouve quand même que là, on a un... grâce à l'enquête, à l'obstination, ouais, à la ténacité, il y a quand même un effet de réel, enfin qui est très saisissant,
qui est poignant,
qui est émouvant. C'est-à-dire que bien sûr qu'on aurait pu se dire, bah voilà, c'est un témoignage, une forme de résistance, et au fond, peu importe qui en est l'auteur, mais voilà, quand on connaît l'auteur, son parcours, ce qui lui est arrivé après, d'où il vient aussi, qui il est. C'est un Français, un vendeur qui travaille au printemps. Voilà, ça permet aussi de décrire ce qu'est ce magasin pendant ces années-là.
Il y a un huis clos assez extraordinaire au printemps, effectivement.
Bah oui, avec, c'est quand même fascinant.
À l'époque, c'est bon, c'est évidemment l'incarnation du Paris chic, avec des réseaux de résistants, des collabos. Raoul Minot, qui est sous-chef aux réserves, c'est-à-dire l'endroit où on stocke la marchandise et qui, lui, profite de ses pauses déjeuner ou de ses jours de congé pour arpenter Paris et prendre des photos, qu'il fera développer au studio photo du printemps. Donc, vous avez un huis clos, c'est un village français dans un grand magasin. C'est
Julien Blanc. Voilà.
Non, mais il utilise en réalité les ressources de son lieu de travail et de sa profession. C'est-à-dire qu'au printemps, il y a un studio photo, hein, une entreprise que vous décrivez comme une sorte de modèle de paternalisme social où il y a effectivement pour les employés un certain nombre et il y a un studio photo, et donc la question fondamentale de l'approvisionnement en papier, en tirage et en pellicule,
histoire matérielle.
Bien sûr, là on est sur la matérialité qui est quand même très importante, et sur les procédés techniques, et donc il utilise ça, il met ça à contribution et à profit, et c'est ça qui lui permet de faire tous ces clichés.
Permettez, je reviens un instant sur le fait que effectivement la découverte du nom a été un élément déclencheur qui m'a entraîné dans cette deuxième phase de l'histoire, mais au moment où j'écris les quatre premiers volets et que je m'apprête à écrire le cinquième, je ne sais pas encore qui il est.
Et vous avez quand même décidé de l'écrire.
La série aurait été publiée de toute manière. Oui. J'aurais écrit le cinquième volet en rassemblant les éléments à ma disposition et en lançant une sorte d'appel au lecteur. C'est participatif, c'est tendance, comme on dit aujourd'hui, mais j'aurais fait ça.
Voilà. Avec une insatisfaction, Philippe Boussard, quand même, parce que, pour vous, les images, ça suffit pas. Il vous faut du récit.
Il me faut du récit, il me faut de l'incarnation, il me faut une personne. Et cette personne, pour revenir à la photo dont on parlait au tout début, la fameuse photo de l'ombre, cette ombre, elle m'a lancé un défi personnel, professionnel, émotionnel, j'allais dire. J'étais là. Viens me chercher, viens m'identifier. Quelque chose de ce ressort-là.
Et en mesurant les ombres, et en refaisant les gestes, et en parcourant les lieux, en marchant dans leurs pas, vous le retrouvez, ce photographe anonyme. Et là, il y a évidemment un geste de journaliste, un geste d'historien, mais aussi un geste d'écrivain. On y faisait allusion. Écoutons Patrick Modiano, c'était son discours de réception du prix Nobel en 2014.
Ville étrange que ce Paris de l'occupation. En apparence, la vie continuait, comme avant. Les théâtres, les cinémas, les salles de music hall, les restaurants étaient ouverts. On entendait des chansons à la radio. Il y avait même dans les théâtres et les cinémas beaucoup plus de monde qu'avant-guerre, comme si ces lieux étaient des abris où les gens se rassemblaient et se serraient les uns contre les autres pour se rassurer. Mais des détails insolites indiquaient que Paris n'était plus le même qu'autrefois. À cause de l'absence des voitures, c'était une ville silencieuse. Un silence où l'on entendait le bruissement des arbres, le claquement des sabots des chevaux, le bruit des pas de la foule sur les boulevards et le brouhaha des voix. Dans le silence des rues et du blackout qui tombait en hiver vers 5 heures du soir et pendant lequel la moindre lumière aux fenêtres était interdite, cette ville semblait absente à elle-même. La ville sans regard, comme disaient les occupants nazis. Les adultes et les enfants pouvaient disparaître d'un instant à l'autre sans laisser aucune trace, et même entre amis, on se parlait à demi-mot, et les conversations n'étaient jamais franches, parce qu'on sentait une menace planer dans l'air. Voilà pourquoi le Paris de l'occupation a toujours été pour moi comme une nuit originelle. Sans lui, je ne serais jamais né. Ce Paris-là n'a cessé de me hanter et sa lumière voilée baigne parfois mes livres.
France Culture, allons y voir. Patrick Boucheron.
Julien Blanc.
Oui, non, c'est pas, ça baigne pas parfois ses livres, ça baigne...
tous ses livres.
Bah, à peu près tous ses livres. Oui, le silence de la ville, ça c'est quelque chose que beaucoup de témoins ont rapporté, hein, surtout au début, surtout les premiers mois, avant que les gens reviennent, il y a quand même plus de les deux tiers des Parisiens qui ont quitté Paris, hein, enfin à un moment, donc c'est quand même...
Et on le voit, ça,
c'est une ville
photos.
Complètement
c'est quand
vide,
même une photo ouais. Très... Et il est passionné quand même par la monumentalité,
oui, oui, oui.
Monumentalité qui est pour lui blessée. Par la présence des...
Et qui ressort d'autant plus qu'il y a quasiment personne dans les rues. Enfin, Donc c'est quand même... C'est vrai que ce qui montre, c'est une ville qui est quand même très grise, qui est très silencieuse. Alors, l'expression « ville sans regard » qu'utilise Modiano, les Allemands utilisent ça, ça renvoie au fait que les Parisiens ne les regardaient pas.
Ouais.
Et donc, ils en souffraient, ils l'ont explicité comme ça. Une ville sans regard, des Parisiens sans regard.
Ouais. Mais Philippe Broussard, ce qui vous a aussi intéressé, une fois de plus, c'est de retourner la photo, et parce que c'est une histoire sans parole, sauf qu'il y a effectivement cette parole stridente, obsédante en fait, de notre photographe
oui,
qui est
commentaire,
qui s'indigne.
Longtemps, je me suis interrogé est-ce qu'ils sont de sa main, est-ce qu'ils ne sont pas de sa main. J'ai même fait appel à une graphologue. Vous vous rendez compte pour examiner tout cela. Et il y a un autre mystère dans cette histoire qui n'en manque pas. Il y a un autre mystère, c'est que beaucoup de ces commentaires, de ces légendes au verso des photos ont été en partie, tout ou partie grattés,
oui.
Grattés, réécrits comme si on avait voulu cacher quelque chose impossible de savoir ce qu'il y a dans la chair profonde du papier, c'est très compliqué. Est-ce qu'ils ont voulu échapper à quelques contrôles, je ne sais pas. En tout cas, il y a encore une part de mystère, l'un d'eux étant des éventuelles complicités dont Raoul Minot a pu bénéficier à titre personnel, mais ça c'est ma conviction et qui m'emmène peut-être vers la suite, c'est de me dire, est-ce qu'il a eu des complices? Je pense que oui.
Julien Blanc.
Donc, je vais juste rajouter une chose, c'est que évidemment les textes, c'est ce que disait tout à l'heure la carte postale, c'est effectivement des cartes postales, c'est-à-dire qu'on retourne, il y a l'image et puis il y a le texte, mais le texte est typique des débuts de la résistance. Pourquoi? Parce que on a l'utilisation de l'arme, de l'humour. De la dérision. Ce sont des propos qui sont effectivement très très incisifs, très courts, très ramassés, mais très incisifs. Un exemple que j'avais relevé, une photo où on voit des officiers allemands sous la Tour Eiffel, c'est moins dangereux que sous la Tower Bridge à Londres. C'est typique des premières formes de résistance, ça, en fait, de l'arme de l'humour, qui est l'arme de ceux qui n'ont pas d'armes.
Parfois, ils les appellent nos protecteurs verts,
ouais,
entre guillemets.
Ouais. Alors ça aussi, il y a plein d'exemples dans cette première littérature de la résistance, où on est sur ce type de grammaire et de registre humoristique.
Alors évidemment, on peut se poser la question, puisque maintenant on s'intéresse au texte, de ce que serait devenu ce corpus s'il était placé dans les mains d'un écrivain. Rêvons un peu en écoutant peut-être Hervé Guibert en 2009.
Ce qui a déclenché l'écriture, c'était le regret de photos ratées en fait, de photos que j'ai pas pu faire, de photos qui se sont révélées invisibles, fantomatiques. Et donc j'ai essayé de décrire pour retrouver le sentiment que j'aurais voulu donner avec ces photos. J'essaie de photographier les gens que j'aime bien ou de faire des photos quand je suis en voyage, un peu comme tout le monde. Mais je suis plutôt un mauvais technicien et donc je rate beaucoup de photos. Donc j'ai essayé souvent, enfin par l'écriture, de rattraper ce que j'avais pas réussi avec la photo.
Éléonore Chaline, bonjour. Vous êtes historienne de la photographie, maîtresse de conférences à l'Université de Paris 1, autrice d'une histoire contrariée, le musée de la photographie en France, 1839-1945, paru chez Macula en 2017, et vous faites partie de cette Académie de l'Invisible qui est notre société, qui donne un nouveau regard sur ce dont on a parlé. Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans, dans cette histoire ?
ce qui m'a plu, ce sont les mystères de l'album photographique. Donc, comme beaucoup, j'ai lu avec avidité votre enquête cet été et, une fois n'est pas coutume, j'ai gardé les numéros pour pouvoir revoir ces articles et c'était un heureux hasard. Car il y a un mois, j'ignorais encore totalement que je serais ici aujourd'hui. Et une nuit, pour préparer cette carte blanche, je réfléchissais aux illustrations qui avaient été retenues par vous, Philippe Broussard, et par le journal. Et je me suis dit, tiens, il n'y a pas de photographie de cet album dans cette série d'articles. Et le matin, j'ai vérifié. Et si, c'est même la première illustration choisie. Dans cette composition sur fond d'album, on peut voir à l'arrière-plan une page ouverte de cet album avec sa spirale assez typique des années 70. Sur cet arrière-plan se détachent 5 photographies qui toutes donc ont été prises entre 1940 et 1942, ainsi que la fiche de mise en garde qui sert d'introduction à cet objet bien lisible. Aussi, cette première image n'est pas celle d'une page de l'album stricto sensu, elle sert de mise en abîme de l'enquête à venir. Quand est-ce que cet album, à la reliure plutôt banale, a-t-il été fait et par qui? Cela a été l'un des fils de votre investigation, ou toujours vous êtes revenu à l'album.
Et vous, évidemment, comme historienne, la photographie, Éléonore Chaline, ce qui vous intéresse, c'est aussi la matérialité de cet objet un peu délaissé, parfois, par l'histoire de l'art.
Oui, l'histoire de la photographie commence ou presque par un album photographique. Dès 1839, Hippolyte Bayard consigne ses essais dans un album qui est sans doute l'un des premiers albums photographiques jamais réalisés. Cet album est aujourd'hui conservé dans les collections de la Société française de photographie. On l'appelle l'album d'essais de Bayard. Lui l'appelait son cahier d'essais. Et c'est le résultat de ses premières expérimentations pour fixer l'image de l'objet sur le papier. Apparaissent donc d'abord dans cet album des bandelettes de papier différemment teintées, puis les premiers objets photographiés. D'abord des choses, statuettes, plâtres, puis des vues depuis la fenêtre, des immeubles et des rues. C'est un album assez émouvant et assez bouleversant à observer, parce qu'on peut se poser la question de comment naissent les images photographiques. Cet album, ce n'est pas un journal, il reconstruit l'expérience, il ne montre que les réussites, il édulcore les difficultés, il oublie les échecs. Il reste en partie une énigme, lui aussi, ou plutôt il fait énigme, car l'auteur ne rapporte pas ses manipulations, n'explique rien. En revanche, il colle ses images photographiques comme autant de preuves et de traces de sa pratique. L'histoire de la photographie est jalonnée d'albums disparus et retrouvés, ou à jamais perdus, mais l'objet, lui, quand il est là, il demande souvent à être déchiffré.
Et oui, justement, il y a bien une histoire matérielle de ces albums, puisque leur pratique ne peut se développer qu'à partir du moment où il y a des tirages papier. Hein, c'est-à-dire voilà. Dans les années 1850.
Hein. 1850, c'est le portrait carte de visite de Disderi sous le Second Empire. C'est à ce moment-là que se déploie la fabrication des albums. Donc, dans le Paris des années 1840, on trouve des fabricants d'albums, mais donc plutôt pour le dessin et l'estampe. On en trouve chez les papetiers, comme Delarue. On en trouve chez des fabricants de portefeuilles qui fabriquent aussi des carnets de bal, des agendas et des albums. Mais c'est vraiment dans les années 1850 et plutôt 1860 qu'on voit apparaître cette rubrique album dans le bottin commercial. Et en fait, c'est vraiment dans sa liaison avec le commerce, avec l'industrie du portrait, que l'album connaît son ascension. Le développement de la photographie amateur, l'arrivée de la carte postale à la fin du 19e siècle vont donner lieu à une nouvelle frénésie d'albums. La bourgeoisie les achète pour y verser donc des photographies de famille, mais aussi les portraits des personnalités du moment. Dans La Curée d'Émile Zola, qui est publié en 1871, l'écrivain, qui était lui-même photographe amateur, décrit la manière dont ces albums sont à la fois consommés et scrutés.
Vous voulez que je vous lise le passage ?
Je veux bien.
Ah ben, pas de problème. Maxime apportait aussi les photographies de ces dames. Il avait des portraits d'actrices dans toutes ses poches et jusque dans son porte-cigare. Parfois, il se débarrassait. Il mettait ces dames dans l'album qui traînait sur les meubles du salon et qui contenait déjà les portraits des amis de René. Il y avait aussi là des photographies d'hommes, messieurs de Rosan, Sanson, de Chibray, de Mussy, ainsi que des acteurs, des écrivains, des députés qui étaient venus, on ne savait comment, grossir la collection. Monde singulièrement mêlé, image du tohu-bohu d'idées et de personnages qui traversaient la vie de René et de Maxime. Cet album, quand il pleuvait, quand on s'ennuyait, était un grand sujet de conversation. Il finissait toujours par tomber sous la main. La jeune femme l'ouvrait en bâillant, pour la 100e fois peut-être.
La forme de l'album, elle est alors à l'image de ses portraits bourgeois. Gros fermoir de métal, tranches dorées, couverture rigide en cuir, en écaille.
Et puis, au XXe siècle, on les connaît toujours, ces albums, ils ne disparaissent pas.
Ils ne disparaissent pas. Avec les boîtes de chaussures, ils sont l'un des deux contenants majeurs de conservation des photographies de famille et de la sphère domestique. Fêtes, anniversaires, moments importants qui rythment la vie, événements ou voyages. Et c'est ce que décrivait l'anthropologue Richard Chalfon dans les années 1980.
Anouk, vous voulez bien le lire, celui-là ? Anouk Minaudier ?
Si l'on estime qu'une collection complète comprend environ 3000 photos, estimation qui prend en compte le contenu des albums, tiroirs, boîtes à chaussures, portefeuilles, etc., et que la vitesse d'obturation est en moyenne d'un centième de seconde, on arrive à 30 secondes sur le total d'une vie. Nous pouvons dès lors nous interroger sur la sélection tacite qui a conduit au choix de cet 1% des jours de notre vie où l'on sort l'appareil photo et sur la signification de cette demi-minute décisive.
30 secondes d'une vie. Des plus communs aux plus extraordinaires, leurs formes suivent les modes, ils sont partout, on en trouve dans toutes les familles ou presque, chez les collectionneurs, dans les entreprises. Loin de se cantonner à la photographie de famille, certains albums sont conservés dans des musées, des archives, des bibliothèques et ils forment un ensemble hétéroclite.
Oui, et pourtant c'est quand même un des objets les moins théorisés de l'histoire de la photographie.
C'est vrai. Dans un art moyen paru sous la direction de Pierre Bourdieu en 1965, il n'y a pas d'entrée album dans l'index, alors que lui et son équipe s'intéressent aux usages sociaux du médium. L'album est souvent un impensé. Entre les années 1960 et 1980, au moment de l'essor du marché de la photographie ancienne, de nombreux albums ont été désossés et vendus en planches séparées, leurs photographies détachées, certains le sont d'ailleurs encore aujourd'hui sur les marchés aux puces ou chez les marchands. Mais aujourd'hui, parce qu'on s'est davantage tourné vers les images dites ordinaires, les albums intéressent plus, et notamment des collectionneurs. Et peut-être aussi parce que, en tant qu'objet, au tournant du numérique, mais surtout de nos amis les téléphones portables, ils ont plus ou moins disparu des pratiques ou se sont transformés en albums numériques. Parce qu'ils offrent aux regardeurs plusieurs pages avec des photographies élus pour être conservés, parfois avec des légendes et des annotations, l'album est un code à déchiffrer. À la différence de l'image unique, l'album est un objet complexe, témoignant de pratiques solitaires ou collectives, espace de collecte autant que de mise en scène. Les albums ne sont pas que des réservoirs d'images. Légendes, textes, commentaires, articles découpés, tickets, cartes postales peuvent venir s'y adjoindre. Ils sont un espace de montage, de recomposition et de condensation. Parfois, il suffit de trouver un fil dans un album, un lieu, une personne, celui qui l'a rassemblé ou conservé, ceux ou celles qui ont pris les clichés, et toute la pelote se déroule. Les images prennent alors sens les unes par rapport aux autres. Mémorial, lieu du souvenir et du récit en images, l'album peut infléchir l'histoire et la mener vers des points insoupçonnés, qu'ils appartiennent à la mémoire familiale ou relèvent de l'histoire privée, qu'ils relatent des événements ou des moments historiques, comme l'album dont il a été question tout au long de cette émission.
Il y a d'ailleurs d'autres ouvrages qui ont récemment exploré des albums photographiques comme objet d'histoire.
J'en citerai deux. Un album d'Auschwitz, « Comment les nazis ont photographié leurs crimes » de Tal Brutmann, Stefan Hördler et Christoph Kreutzmüller, publié en 2023 au Seuil. Et tout récemment, aux éditions de La Découverte, « Noces de cendres », un voyage dans les ruines de la Grande Guerre de Clémentine Vidal-Naquet qui vient de paraître. Découvert, retrouvé, perdu, passé à la loupe, l'album photographique se révèle un véritable objet d'enquête et peut-être l'un des plus excitants.
Excitant, Philippe Broussard. Il n'y en a pas tant que ça, quand même, des enquêtes de cette ampleur dans la vie d'un journaliste.
Non, je dois reconnaître que j'ai mené quelques enquêtes, mais celle-ci, peut-être parce qu'elle arrive, disons, un peu en fin de carrière. J'arrive sur la fin de mon parcours, une partie de la fin de mon parcours professionnel, mais ça restera en moi. Je peux vous dire que le vendredi 12 avril 2024, aux alentours de 15h, quand j'ai connu le nom de l'auteur de toutes ces photos, j'oublierai jamais ce moment-là. C'est une sensation assez extraordinaire. C'est une satisfaction, bien sûr, professionnelle, je ne vais pas le cacher. Mais au-delà de ça, c'est une remise en lumière, une remise à l'honneur, quelque chose de mérité pour lui, ce qu'il a fait ne pouvait pas rester dans l'ombre.
Et puis, on peut le dire peut-être, Philippe Broussard, vous êtes le fils d'un très grand policier, commissaire Broussard.
Oui, vous avez la question, mais je vais vous dire une chose, c'est que mon père n'a jamais travaillé sur des enquêtes criminelles. Mon père était un policier d'intervention, c'est-à-dire qu'il suivait des braqueurs, hein. Il arrêtait les braqueurs, il intervenait sur des prises d'otages, mais il n'a pas mené l'enquête façon Maigret.
Donc, il n'y a pas de flic chez vous?
Non, pas du tout. J'ai toujours voulu être journaliste et je l'informe de mes découvertes, bien sûr. Il a lu tout cela avec passion.
Julien Blanc. Je voudrais juste ajouter une chose. Je comprends parfaitement votre sentiment de incroyable, de satisfaction, qui est quand même à mettre en lumière, en regard avec l'originalité quand même profonde de votre objet. C'est-à-dire que ce fond, il est jusqu'à ce jour, parce qu'on peut espérer peut-être que d'autres fonds de photos ressurgissent, d'autres albums, mais à ce jour, il est sans équivalent. Oui. C'est-à-dire que si on compare avec ce qu'on connaît, ce qui existe, les photos de par exemple d'André Zucca, qui sont des photos où il était accrédité pour le magazine Signal, le magazine allemand de propagande nazi, avec toute une série d'images d'archétypes du Paris occupé vu par les Allemands. Bon, voilà, là c'est complètement autre chose. C'est vraiment tout à fait original, tout à fait différent. Il montre une ville qui est emprisonnée, qui est une ville grise, qui est une ville silencieuse. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir.
Un journaliste, un historien de la résistance, une historienne de la photographie, pour vous, Éléonore Chaline, du point de vue de l'image et de l'image seule, qu'est-ce que vous retenez de cette découverte?
Moi, l'indice qui m'a le plus frappé dans l'enquête, c'est la photographie de l'immeuble, en fait, la vue sur l'intérieur de cette cour, où on peut voir où le photographe s'est placé, où est-ce qu'il était, pourquoi il prend cette photographie, pourquoi est-ce qu'elle est dans cet album.
Je me permets de la décrire un petit peu. En fait, c'est la seule photo prise de l'intérieur d'un immeuble. Et il y a marqué au dos de la photo, Bécon, vue sur la cour, poste d'observation.
Oui. Et vous, Éléonore Chaline, ce qui vous intéresse, j'imagine, c'est la question du point de vue aussi.
Du point de vue, en effet, c'est une question qui est souvent posée au début de l'enquête. Comment il fait pour s'approcher autant, etc. Où est-ce qu'il se place? Et on voit quand même que si on regarde vraiment les images, si on les analyse, si on se penche sur les détails, on trouve des indices qui peuvent mener sur des pistes qui ne sont pas toujours les bonnes, mais qui en tout cas, vraiment, avec le complément des archives écrites, est une clé.
Et moi, j'essayais un peu péniblement de contraster une enquête journalistique, littéraire ou historique, mais là, sur cette question de mettre ses pas dans les pas aveugles, pour le dire comme Christophe Cogné, c'est-à-dire de retrouver le lieu, le geste, le point de vue. Il y a quelque chose qui est indissociablement littéraire, artistique, scientifique, journalistique. Au fond, et en fait, c'est humain. Il faut juste essayer de retrouver l'endroit où il a vu tout ça.
Il a vu tout ça. Et en le retrouvant, on se pose la question, est-ce qu'il l'observait parce qu'il imaginait des circuits, des échappatoires en cas de descente de police? Est-ce qu'il surveillait l'une ou l'autre des fenêtres que l'on peut apercevoir? On en aperçoit une douzaine. Pour l'anecdote, j'ai essayé de vérifier si dans les immeubles voisins, en regardant les recensements des années 30, il y avait des gens qui avaient commis des actes de résistance ou qui étaient connus pour autre chose.
Donc, alors, on laisse aux lectrices et aux lecteurs le plaisir de découvrir que c'est à partir du moment où on trouve l'endroit d'où il regarde, qu'on le voit lui-même, enfin qu'on le découvre, que le nom Raoul Minot surgit grâce à vous. C'était Allons-y voir. Merci à vous trois, Philippe Broussard, Julien Blanc et Éléonore Chaline. Les références de vos parutions sont à retrouver sur la page de notre émission, une émission préparée par Sophie-Catherine Gallet et Anouk Minaudier, à la prise de son Florent Bujon et à la réalisation Laurence Millet. Merci à vous.